Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Épisode faisant suite au précédent puisque nous retrouvons Richard, mon voisin, enseignant la pensée critique à l'Université de Grenoble. Nous parlerons aujourd'hui de production de savoir et de bien compossible, de bien brosser nos dents et notre cerveau, du biais d'attrition et de cours en prison, d'alibi de détection et de radicalisation. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Deuxième partie d'un entretien enregistré à Grenoble en février 2017.
Ça fait combien de temps que t'enseignes, toi ?
Bah, au début, j'enseignais de la physique et de la chimie, ça fait 20 ans maintenant. En fait, quand j'ai fini mon doctorat, je me suis dit, même avant de commencer le doctorat, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai utilisé des termes à Bayarjon ou à Chomsky, parce que j'aime bien la façon de penser de ces gens. Qu'est-ce que je peux faire comme production de savoir qui soit des biens compossibles ? Un bien compossible, c'est, tu as un vélo, si j'ai un vélo, je te le donne, t'es content, toi t'as un vélo, puis moi je suis à pied, j'ai l'air d'un con. Un bien compossible, c'est un bien, je te le donne, et puis je l'ai toujours, tu vois. Donc je t'explique un biais de raisonnement, ou toi tu m'expliques une erreur statistique, tu vois, et moi je repars et tu l'as encore, tu vois, et on partage ça. Je me suis décelé des biais de raisonnement, ou des rhétoriques fallacieuses, ou des sophismes, ou des argumentaires mathématiques biaisés. Personne ne peut récupérer ça, tu vois. Même l'armée ne peut pas récupérer ça. Ça ne peut être que bon. Peut-être du mégot, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être que bon de déceler le biais de raisonnement et l'erreur dans la présentation des faits. Et donc je me suis dit, au moins ça, personne ne pourra le prendre, tu vois. Ce ne sera pas les cosmétiques, ce ne sera pas L'Oréal, ce ne sera pas Servier, ce ne sera pas Boiron non plus, tu vois. Ça sera pour le bien public, quoi. Un peu comme si on faisait de la prévention en santé, quoi. Je me rappelle quand j'étais petit, on nous apprenait à nous brosser nos dents, tu vois. Je me dis, apprenons à brosser nos cerveaux. On sort d'un cours, là, ils ont 18 ans en moyenne, ou 20 ans, tu vois. J'aimerais bien qu'ils, si à 20 ans, ils en savent ce que je sais à 40, et ça peut, tu vois. Ils ont gagné 20 ans, tu vois. Moi, à 20 ans, j'étais un neuneu par rapport à eux, tu vois. Et c'est eux qui vont foutre le bazar après.
Mais alors, du coup, ton rapport avec les étudiants, ça se passe comment ? Les retours que tu as ?
C'est compliqué à répondre à ça parce que, tu vois, il y a un biais assez classique qui est celui de l'exposition sélective dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis il y en a un autre qui est le biais de confirmation d'hypothèse. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à, si je fais une hypothèse genre « Ah, je fais un cours super », tu vois, tous les gens qui vont venir me voir pour me dire « Ah, c'était super », puis je vais même pas me rappeler de ceux qui font la gueule, tu vois. Puis après, il y a un autre biais qu'on appelle, alors, tu vois, ça porte des noms, ces biais, le biais d'attrition, c'est-à-dire les perdus de vue. C'est-à-dire qu'en fait, Si tu me demandes, 100% des gens qui viennent me voir à la fin des cours, ils kiffent, tu vois, ils me disent « Ah, c'est cool, tu sais ». Mais ça se trouve, ils sont 20, puis là, ils étaient 400, et 380, ils sont partis furax, ils détestent, tu vois, j'en sais rien, en fait. Donc, je peux pas te dire s'ils sont contents ou pas. Moi, bon, j'ai un rapport assez égalitaire avec eux, je suis disponible. Je sais que quand je leur balance des gros décortiquages de théories sur lesquelles ils croyaient depuis longtemps, je reste après, je les laisse pas complètement désemparés, tu vois. Et puis, je leur montre comment ça s'incarne sur des sujets qui sont à eux, et ils bossent sur des sujets, je crois qu'ils sont plutôt satisfaits à la fin. Il y en a beaucoup qui me disent, beaucoup, mais je sais pas quelle proportion, beaucoup qui me disent, putain, j'aurais bien aimé apprendre ça plus tôt, tu vois. Ce qui fait que ça fait que me confirmer ce que je pense, c'est qu'en fait, là, c'est déjà trop tard, tu vois. En plus, c'est déjà trop tard, parce que moi, c'est un amphi de L1, et j'ai encore quelques noirs, quelques ouvriers, quelques rebeux, tu vois, mais il y en a pas beaucoup, tu vois, ça court pas les rues. J'ai deux nanas voilées, cachées, quoi, dans l'amphi, tu vois. Ils sont où, tous les autres ? Ils ont disparu en troisième, parce que orientés. Donc c'est avant ça qu'il faudrait y aller, tu vois. Alors à un moment, on s'est dit, je vous parle franco, hein, les mecs, hein, je vous dis tout. On s'est dit, bon, on est là, on est déjà, c'est pas une élite, mais on est déjà dans un, il y a déjà eu un tri social qui s'est fait, tu vois. Il faudrait qu'on retourne au lycée, au collège. Alors on s'est dit, bon, on va aller au lycée, au collège. Puis tu regardes le lycée, le collège, mais c'est tellement coercitif comme système, c'est complètement fixé, tout est fixé à la colle, tu sais, par les programmes, par l'efficacité, par le diplôme à la fin. Donc il y a très peu d'interstices. La fac, tu peux encore le faire, mais à l'école, tu peux pas trop. Après, on s'est dit, ben, on n'a qu'à aller passer de l'autre côté du spectre, et vu qu'on sait que la prison récupère les pauvres, c'est pas les délinquants qui récupèrent, c'est souvent les pauvres qui se retrouvent à faire des trucs répréhensibles par la loi, parce qu'ils sont souvent, parce qu'ils sont pauvres, tu vois. Et donc, on va faire des cours en prison, puis on a monté des cours en prison. On est en train de réfléchir en ce moment à arrêter nos cours en prison. Non pas parce qu'ils kiffent pas en prison, et quand je parle à un public de l'université du troisième âge, où t'as un parterre de gens qui ont 70 ans, qui ont souvent eu de classe sociale professionnelle moyenne aisée, et quand j'ai des détenus qui ont arrêté l'école des fois au CM2, le niveau critique il est pas très différent. La culture est pas la même, ils vont te citer des trucs de 1942, puis l'autre pas, tu vois, mais lui va te raconter des trucs que l'autre racontera pas, tu vois. La capacité critique est la même chez les deux, tu vois. Non, ce qui fait que nous on va arrêter là-bas, c'est que on devient des alibis maintenant pour la détection de la déradicalisation. vous ne pouvez pas indexer vraiment sur les complots, tu sais, parce que... Mais alors, c'est pas n'importe quel complot, tu vois. C'est parce que quand même, le djihadisme, quand même, ça ressemble bien à une dérive sectaire. Alors, vous traitez ça, est-ce que vous ne pouvez pas montrer que... Et nous, on n'est pas d'accord avec cette analyse, parce que... Il y a des formes qui sont un peu sectaires qui se mettent en place après, mais en vrai, le départ des formes de djihadisme, du sabre, des djihadismes un peu violents, les formes de départ, c'est des colères politiques. Elles sont pas très bien dites, souvent, par des jeunes de quartier, mais les colères, elles sont là, tu vois, ces colères postcoloniales, urbanisme de merde, tri social rapide, traitement des deuxième, troisième générations d'immigrés, sans jamais rendre hommage à tout ce qu'on doit à l'immigrant. Enfin, et donc, t'as un contexte que vous connaissez bien, quoi, qui fait que ces gens sont énervés, et d'un seul coup, on leur propose une réponse assez simple, et hop, ils foncent, tu vois. Et quand on dit « Ah, ils sont dans une dérive sectaire », tu vois, c'est genre, c'est des débiles ou des fous. Enfin, toutes les rhétoriques qu'on a toujours fait sur les résistants en 40, sur le FLN qui lutte, sur les Kanaks, c'est toujours des fous. Les résistants, c'est des fous. Ils sont fous ou ils sont décérébrés, tu vois. Alors, pas de chance, ils sont pas décérébrés. Peut-être qu'ils font un mauvais choix et puis que les options violentes, on peut les discuter, puis je suis pas très d'accord avec. Mais n'empêche qu'en disant qu'ils sont juste fous, tu leur fais porter sur eux le chapeau de leur djihadisme. Qu'est-ce qui fait que moi, ça m'est jamais venu à l'idée d'être djihadiste? Alors que Mouloud, mon pote d'enfance, tu vois, oui. Et pourtant, on aurait pu vivre la même chose, et pourtant, moi, j'ai pas eu cette envie, et lui, il l'a. Qu'est-ce qui nous a séparés, en fait? Comment c'est que le service public permet pas d'atténuer ça, tu vois? Alors, quand il nous propose de remplir cette case-là, comme déradicalisateur, tu vois, déjà, il nous propose de faire une paix sociale, mais on est qui, nous, pour faire ça? On n'est pas là pour ça, nous, on sait détecter des biais de raisonnement. On n'est pas là pour leur dire « calmez-vous, les mecs, tu sais ». Et en plus, il nous propose, en ce moment, dans le plan de lutte antiterroriste, ah, est-ce qu'on pourrait, en gros, tu vois, servir un peu de courroie pour relayer les individus les plus... Nanana, tu vois, oulala. Mais jamais de la vie, tu vois. Enfin, c'est déjà des gens qui sont déjà réprouvés, qui sont réprouvés en plus dans un système qui est carcéral, qui résout rien, qui est la prison. Et en plus, nous, on va aller là-bas en pensant qu'on va être utile pour qu'ils n'y retournent pas. Mais en fait, on sert un autre intérêt, un autre agenda, tu vois. L'agenda, c'est de calmer ces gens, tu vois, c'est de les faire rentrer dans le rang, tu vois. Donc on est en train de réfléchir à plus faire court en prison. Ça nous saoule.
Derrière.
Ouais, on a collectif.
Et après, pourquoi pas d'intervention dans l'espace public directement?
Pour répondre à la première question, on a un collectif, on est à peu près une dizaine, plus un tas de contributeurs autour. Au départ, on est des enseignants, des éducateurs et des chercheurs qui se sont mis d'accord pour dire faisons de la pensée critique un objet à part entière et enseignons-la, forçons le sujet là-dessus, ça n'existait pas jusque-là. Il y avait plein de gens qui parlaient de pensée critique, il y avait plein de gens qui faisaient plein de choses, tu vois, mais on s'est dit faisons de ça un vrai objet, quoi. Donc le Cortex s'est monté en 2010 pour ça. Après, pourquoi on le fait pas dans le domaine public? En fait, on l'a fait dans une certaine mesure, puisqu'on a un camarade commun là, qui est parti un peu dans le domaine public pour faire des sortes de conférences dites gesticulées. C'est une manière de faire. Après, il faut une certaine forme de talent qu'on n'a pas tous. Donc nous, on est parti de ce qu'on savait faire. On sait faire dans un cadre contraint. Ça a ses avantages, un cadre contraint. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont un contenu. Au bout, ils sont obligés de rendre un truc et donc ils sont obligés d'appliquer le machin. Tu vois, il y a une forme de contrainte, quoi. Dans l'espace public, pour mettre les gens au boulot, c'est un peu plus compliqué et il y a des méthodes, c'est pas tout à fait les mêmes. Et nous, on sait pas trop faire. Bon, en même temps, c'est un espace public ici, tu vois, théoriquement. Mais c'est un espace contraint, je suis d'accord. Dans la rue, ça me tente des fois, tu vois. Mais moi, j'ai pas de talent pour ça, donc je prendrais bien une chaise, je me mettrais debout, puis j'éructe. J'ai voilà la technique de. Ne vous faites pas avoir par cette rhétorique, t'es, mais un peu genre en mode Diogène, enfin dans la rue, quoi. Mais ça, c'est peut-être. Enfin, vous, je suis sûr que vous le faites mieux que moi, vous. Tu vois, ce soir, j'ai fait filmer mon cours, mais c'est pour que mes collègues en profitent, pour qu'après, si demain je crève d'un accident de la route, il y a un deuxième qui se relève, quoi. Tu vois, il y a un deuxième Marcos qui se relève, puis un troisième Marco, puis des milliers de Marcos. Puis, en fait, on s'en fout de qui c'est derrière le masque, tu vois. Le tout, c'est que l'autodéfense intellectuelle se répande et que les gens soient critiques de ce qu'ils entendent et qu'ils ne se fassent plus bourrer le mou. Il faut qu'on crée cette masse critique. Mais la rue, nous, on ne sait pas faire. Alors, il faut... Soit vous allez à la rue, puis vous nous ramenez les gens dans les amphis. Soit on dit aux gens des amphis de descendre dans la rue. Ça arrive, hein, des fois. Puis il y a pas mal de mouvements étudiants. Mais ça reste étudiant, tu vois. Ça reste déjà des gens qui ont déjà survécu aux fourches codines d'avant, tu vois. C'est pas le mec qui a été viré en CM2 parce que, tu vois, c'est déjà, ils ont déjà disparu, ces gens. Je les vois pas, moi. S'il fallait que je fasse ça en rappant, avec des dents en or, est-ce que je le ferais, tu sais ?
Avec la voix auto-tunée aussi.
Voilà, tu vois. Est-ce que je le ferais ? Quelle forme je suis prêt à mettre pour ça ? Mais j'y réfléchis déjà, parce qu'ici, il y a des moments où mes théories, là, les théories que je décortique, elles sont... Je peux mobiliser pas mal d'artifices qui feraient que je peux faire du spectacle, en fait, très rapidement. Puis en plus, j'ai un personnage qui s'y prête assez, donc je pourrais vite devenir un truc charismatique, où tout le monde vient, comme tu vas au cirque, et puis après tu t'en vas. Mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse, tu vois. Donc j'essaie d'atténuer ça au maximum, quoi. Mais au fond, la forme joue beaucoup. Moi, j'atténue au moins sur le lexique. Je suis content quand mes copains qui n'ont jamais fait d'études, ils se pointent là, ils se disent « Putain, c'est la première fois que je rentre dans un amphi. » Et j'ai tout compris, tu vois. Bah, je suis content, tu vois. Alors moi, ça me coûte de dire trois gros mots, mais j'ai aucun mal à dire des gros mots, donc ça me va, tu vois. Puis ça met à l'aise, et puis voilà, ça, au moins, il n'y a pas ce plafond de verre. Mais comment faire pour que les mecs des banlieues d'à côté, là, raboulent leurs fraises ici, là ? J'ai pas de soluce, quoi. Mais parce que c'est encore frais, en fait, à l'échelle du monde, hein, ces processus-là. Hein. Les colonies, c'est encore là. Hein. On a beau dire, mais tu regardes les droits sociaux à Mayotte, les droits sociaux à... Tant qu'il y aura encore ça, il y aura plusieurs pays en un, tu vois. Il y a des îlots... qui s'interpénètera pas beaucoup, quoi. Ça va se faire à la longue. C'est processus lent. Ça casse l'imaginaire révolutionnaire. C'est plus enthousiasmant à imaginer un grand soir, tu sais. Je crois pas trop au grand soir. Il est toujours violent, ça foire tout le temps. C'est des benets qui prennent le pouvoir après. Ça foire tout le temps. T'es le matin, t'as la gueule de bois, tu sais. Alors c'est lent, et je verrai pas le bout, et vous non plus, et on sera mort avant. Mais ça se trouve, tu sais, t'as les prochains dirigeants qui un jour démissionneront pour faire un truc collectif... à la tête d'un état supranational qui... Ils sont peut-être là, tu sais, ils ont 17 ans, là, et, tu vois, à peine pubères, tout contents, tu vois. C'est eux qu'il faut... Puis, ou c'est leurs enfants, tu sais, peut-être. Là, je tombe dans les banalités de comptoir, tu sais, ça y est.
Allez, même pas ta bière, quoi.
Mais il y a même pas... Putain, on a même pas de bière, les gars, il y a même pas de bière. Tu sais, c'est la déprime, j'ai une pauvre fiole de flotte. Et de biscuits pourris.
Tu connais du coup ce que fait Alain Guyard ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Raconte-moi.
Alors Alain Guyard, c'est un philosophe forain. Ça m'interpelle parce que...
J'ai pas honte de dire que je sais pas. Hein.
Putain, il y a un truc que je connais que tu connais pas. Attends, moi je bois un verre ce soir.
Là, ça s'appelle l'effet Julien Lepers. Ils appellent ça comme ça en psycho. C'est comme, tu me parles de sujets que je connais. Maintenant, je donne plein de trucs que je connais, tu vois. Donc toi, tu dis, putain, il connaît plein de trucs. Mais en fait, toi, t'en connais plein autant, mais comme c'est pas moi qui pose les questions, on peut pas les faire sortir. C'est une illusion, tu vois.
Mais ce que je voulais dire par rapport à Alain Guyard... qu'on espère serrer un jour au micro, tu vois, on y travaille. J'ai lu un article qu'il a fait dans Télérama, mais peu importe, où en fait il est assez critique sur les conférences gesticulées. Pourquoi ? Et j'ai trouvé cet argument assez pertinent et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est qu'en fait, tu prêches des convertis. Mais tu vois, dans nous, ce qu'on fait, notre média, et moi, c'est un questionnement que j'ai là, au sein de Résonance, mais que j'ai depuis des années, par des expériences précédentes, j'en ai marre de prêcher des convertis. J'aimerais trouver des gens qui je peux avoir confiance, ou moi, avoir des outils pour justement pas aller déblatérer mon savoir, parce que je connais pas grand-chose en définitive, mais voir... à toucher les gens qui sont exclus, ce qui rejoint ce que tu disais là, dans ton amphi, tu vois, avec des gens qui ont été balayés avant, tu vois, par un système scolaire, quelque part. Et j'aime bien ce que dit Alain Guyard. Il fait, c'est pas des conférences gesticulées, justement, c'est sa philosophie foraine, ouvert, mais vraiment, à des gens qui, justement, ont jamais fait de philosophie, pourtant, viennent et repartent avec des billes en tête, parce que lui, il apporte pas de réponse, hein. La philosophie, ça fait mal, hein. La philosophie, c'est rock'n'roll, c'est pas là pour te passer du bien-être et tout, hein. Il est pas là pour ça, lui. C'est là pour que ça te chamboule, là.
Et il chope des publics non convertis ?
Ouais. J'ai vu et j'ai pas vu ce documentaire, j'ai lu Zonzon, et il va dans ce bouquin, donner des cours de philosophie en prison. Alors c'est un roman, mais en fait il l'a vraiment fait. Je lui ai posé la question, c'est quoi la part du lard et du cochon ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce que ton expérience ? Et il m'a sorti une rhétorique philosophique, ce qui est assez drôle au demeurant, mais il a pas répondu, mais je sais très bien qu'il y a plein de billes dedans, c'est du vrai, quoi.
Mais le top, ce serait d'aller voir ces gens-là avant la prison, tu vois. Et tu vois, un truc que je vois chez beaucoup de militants politiques, on va dire progressistes, tu vois, puisque le mot gauche quand même est assez malmené. Ah mais non, je lui parle pas, lui, non lui c'est un facho. Ou ah non, alors lui, oh, putain, c'est un chasseur, laisse tomber. Alors lui c'est un banquier, je lui parle pas non plus. Ah puis les mecs des banlieues, tu sais, ça fait quand même flipper d'aller là-bas.
Donc en gros, bah quoi, il te reste quoi ? Il te reste les... il te reste le centre-ville blanc, gentil, écolo, mignon, quoi.
Mais ouais, ça fait flipper, tu vois. Mais vous allez vous marrer, mais j'ai fait venir ici des gens qui défendaient la liberté d'expression, large, à la Chomsky, on va dire, qui disent, par exemple, un truc que je pense aussi, qui disent qu'on devrait laisser s'exprimer même les gens aux idées dégueulasses, parce que déjà, c'est la base, si on laisse exprimer que les gens qui ont des idées qu'on aime bien, c'est plus une liberté d'expression, c'est propagande. Tu vois. Et puis même les idées les pires, quoi. Il dit, il y a un mec qui dit que le pape est un imposteur, qu'il faudrait revenir à la messe en latin, tu sais, les lefébristes ou des gens comme ça. Bon, bah, laissons-les s'exprimer, puis on débattra de ça. Quelqu'un qui nie le génocide arménien, ou quelqu'un qui nie le génocide des juifs, laissons-les exposer ça et défonçons-les. En fait, cette étape-là n'est pas possible, déjà à cause de la loi, tu vois, parce qu'il y a la loi qui t'empêche pour la question du génocide, au moins des juifs, ça c'est pas possible. Ce qui pose un problème, hein, c'est que ça alimente encore les trucs de complot, tu vois. Et en plus, on te dit, ah ouais, mais en fait, en défendant la liberté d'expression comme ça, en fait, t'es pro ceux qui parlent. Ah non, tu sais, je les laisse parler justement pour qu'on fasse l'analyse de ce qu'ils racontent. Et en fait, ça, il y a plein de gens qui passent pas ce seuil, t'es, par principe. Tu vois, en ce moment, je suis dans une chorale, il y a des gens un peu disparates, tu vois. Et moi, je suis content à l'idée qu'il y ait des chasseurs. Moi, j'habite dans la campagne, et qu'il y ait des chasseurs. Les chasseurs sont pas réputés être des grands progressistes, généralement, tu vois, généralement. Et bien, tant mieux, elle est là pour faire du lien social, tu sais. Donc, je vais là-bas, ouais, on sera d'abord copains, et après ça, on discutera, tu vois. Et j'espère bien qu'un jour, s'ils ont des idées un peu brunes, que ça change, tu vois. Mais il faut d'abord que je les rencontre, déjà que je les apprécie. Là-dessus, on n'est vraiment pas nombreux à le faire, tu vois, à se forcer, tu vois. Et encore, je trouve que je le fais pour cet aspect-là. J'ai aucune peine à aller discuter avec des types qui défendent des discours horribles, parce que bon, c'est mon boulot. J'ai aucune peine à discuter avec des banquiers et des gens qui sont des dépendants de la logique libérale que j'exècre en grande partie. Enfin, en pleine partie, en tout, quoi. Et par contre, en ce moment, j'essaye de me dire, tiens, ben, je veux apprendre l'arabe parce que je voudrais passer un seuil, tu vois, vis-à-vis de ça. Je suis vite empêtré quand je vais aller discuter avec des Renois gabonais, tu vois. Je peux y arriver avec des gens du Sahel parce que j'ai passé 2 ans dans le Sahel, tu vois. Alors, ça me donne une sorte de... Tu vois, j'ai un point d'accroche. Si je vois un Sénégalais ou un Guinéen, je suis pas perdu du tout, quoi. Mais si je veux parler des Maghrébins... ou des gens qui ont l'air maghrébins, qui sont de troisième génération, je me dis bon, ou si je vois un vieux chibanier assis sur un banc, tu vois, je sais même pas quoi aller lui dire, je sais même... Puis des fois, il parle même pas français, tu vois, je me dis, bah tiens, si j'apprends l'algérien, est-ce que ça marcherait, tu vois. Ça serait une bonne rançon que de me forcer à apprendre l'algérien ou l'arabe, tu vois, pour... moi, je trouve que je leur dois bien ça, tu sais, vu le nombre de biens publics qu'on a construits sur leurs cendres, à ces gens, et sur leur sueur, tu sais, je leur dois bien ça, tu vois. Mais je trouve que je suis un peu en retard, tu vois, je suis en retard là-dessus, mon cours, je dis qu'il est ouvert, t'sais. Il est ouvert, et c'est déjà pas mal, t'sais. C'était déjà une lutte pour arriver à faire ouvrir ce cours. Donc il y a des ouvriers, des copains ouvriers qui viennent, tu vois, ça c'est cool. mais des mecs des banlieues de la Villeneuve ou d'autres, j'ai pas encore réussi, tu vois. Mais je sais pas comment y aller, tu vois. Je sais pas encore comment y aller. Mais j'aimerais bien. Mais je sais pas comment y aller. Est souvent vu sous son prisme technopolitique immonde avec les intérêts financiers derrière, les intérêts technologiques et tout. Ça, c'est des conséquences moches. Mais la science comme démarche, regarder le monde tel qu'il est. Enfin, moi, mon rêve, c'est de transformer ce monde. Pour le transformer, il faut savoir comment il est, quoi. Et donc, le regarder de manière scientifique, de manière analytique, quoi. Pas se mettre des œillères, quoi. Pas se mettre des mysticismes qui embrument tout. Regardons le monde froidement, lucidement, et transformons-le, quoi. Je pense que le regard scientifique est nécessaire. Et je ne mets pas dans le mot science la technopolitique, quoi. Ça ne m'intéresse pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la démarche, tu vois. Si je me dis, tiens, je veux changer tel truc que je trouve déplaisant, eh ben, je regarde qu'est-ce qui me sépare de la situation que j'aimerais bien par rapport à maintenant. J'essaie de faire des degrés, j'essaie de voir combien de force il me faut, combien d'énergie il me faut, combien de pognon il me faut, quel réseau il me faut. Je construis une stratégie objectivable, tu vois, un truc pour que ça marche, quoi. Il faut que ça marche, tu vois. Je dirais, si on pouvait se réapproprier cette démarche réaliste, tu vois, pas se bercer d'illusions, même dans les mouvements progressistes, je vois des formes d'évangile comme ça. Tu vois, pour donner un exemple, le vote, tu vois, un truc où scientifiquement parlant, j'ai changé d'avis. Alors, en tant que bon libertaire, mode de Baillargeon, qui est un camarade, hein. Le vote, c'est pas trop notre crèmerie au départ, quand tu vois, tu dis bon, voter pour déléguer, nanana. En fait, non, ça dépend de quoi on parle, en fait. Si c'est voter pour, là, entre nous, se donner un mandat pour 2 heures pour aller faire un machin, c'est très bien, tu vois, ça dépend du scrutin, en fait. Ça dépend s'il est égalitaire, pas égalitaire, c'est pour quel mandat, est-ce que tu peux être démis de ton mandat et tout. Après, tu dis bon, est-ce que je suis capable d'accéder à des scrutins un peu plus moches, mais pour lesquels il y a des conséquences directes chez les gens? Et pendant longtemps, je me disais, ben non, tu sais, le présidentiel, c'est immonde. J'y vais, mais je vote nul, comme ça baisse les chiffres. Ou, tu vois, ou je suis une cocotte en papier, ou des trucs symboliques qui servent à rien, tu vois. Et puis, et après, en fait, je me suis dit, mais en fait entre Montebourg, Fillon, Mélenchon, Le Pen, je sais pas qui, les autres, ça va pas faire les mêmes impacts, pas sur moi, c'est pas moi qui va être touché directement, parce que je fais partie de classes sociales professionnelles maintenant, tu sais, moyenne aisée, quoi, là, ça y est, là, je gagne 1 007 par mois, mais d'un point de vue culturel, tout, j'ai mes influences, mon machin, fait que j'ai un statut un peu particulier, tu vois, je suis protégé par ça, mais les petits, là, mes petits potes, là, eux, ils prennent cher si c'est Marine Le Pen, eux, ils prennent cher si c'est Fillon, eux, la sécurité sociale, si elle prend cher, c'est les petits qui mangent, tu vois. Et là, je me dis, ben, en fait, je vais peut-être aller voter quand même, tu vois. C'est rationnel, en fait, là, pour le coup, d'aller appuyer. Peut-être pas au deuxième tour, ça dépend. Mais peut-être pas au deuxième tour, mais en tout cas, au premier tour, je trouve ça un intérêt de le faire. Et pas avec des trucs calculatoires, hein. C'est vraiment appuyer des opinions qui semblent être les plus subversives à un moment donné, quoi. Pousser dans toutes les directions. J'irai mollement avec mon chasseur, j'irai mollement avec mon facho de famille, mon cousin facho, j'irai mollement plus fort avec un étudiant comme ça, et puis avec mes copains, encore plus. Pousser un peu partout, tu vois, pousser un peu tous les pions, quoi. Mais analyser les situations de manière rationnelle, pas par principe, tu vois. C'est ça que j'appelle la science, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de te dire, mais c'est ce regard-là analytique Un mec qui a fait ça toute sa vie, c'est le mathématicien Russell, Bertrand Russell, il a fait ça toute sa vie. Puis après, il a dit, bah, j'applique rationnellement ce que je fais sur les maths et je regarde le monde, bah, je suis militant pour la paix dans le monde. Donc j'essaie de saboter la garde 14. Bon, il fait de la prison toute sa vie. Il a une vie incroyable, ce type. Il essaie de mettre en cohérence sa réflexion critique sur le monde et ses choix, quoi. Ça, c'est la classe. Respect. C'est pas le seul, mais ils sont pas nombreux. Il y a quelques punks aussi.
Voilà. C'est fini. Merci à Richard pour l'accueil, le bon moment et le taxi. Merci à Nicolas pour la mise en contact. Un entretien mené par Sylvain Lyon et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez en savoir plus sur Richard mon voisin, nous vous conseillons d'aller visiter le site cortex.org. Cortex, C-O-R-T-E-C-S. Retrouvez le podcast de cette émission ainsi que tous les portraits précédents en vous rendant sur le mixcloud.com/sur-la-route. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, www.facebook.com/association-résonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.